Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Anne Steiner du comité rédactionnel de la revue Brasero et Jacques Bojard autour du livre L'insurgé sur Séverine, paru aux éditions de l'Échappée, le 24 novembre 2022 à la librairie Terra Nova.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on accueille Jacques et Anne autour d'une rencontre qu'on a intitulée Femmes de combat. Donc Jacques est là pour nous présenter le livre L'insurgé sur Séverine qui est paru aux éditions L'Échappée et Anne, la revue Brasero et notamment la figure de Madeleine Pelletier. Merci beaucoup.
Ouais. Mais bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à Terra Nova ce soir. Comme Gabi vous l'a dit, cette rencontre est organisée à l'occasion de la parution de deux publications, Brasero et L'Insurgé. Et donc, cet intitulé Femmes de combat, ça vient de l'une des deux rubriques d'Anne Steiner dans Brasero, puisque elle s'occupe de la rubrique L'œil de la police et également d'une rubrique qui s'appelle Femmes de combat. Et donc, un petit mot sur Brasero dans un premier temps, puisque vous avez peut-être vu passer le premier numéro l'année dernière, qui est paru exactement à la même époque. Donc c'est une revue de contre-histoire dont on a réfléchi, auquel on pense depuis très longtemps. Et donc, à la suite du premier confinement, on avait un petit peu de temps où Cédric Biagini et Patrick Marcolini, les deux coordinateurs de la revue, pendant qu'il y en a qui lisaient des livres ou qui faisaient du pain, eux, leur grand délire, c'était de s'envoyer des éventuels sommaires. Et donc, avec ce temps disponible, ils sont enfin lancés dans cette aventure éditoriale. Et donc l'idée de la revue c'est de présenter une contre-histoire d'après les éditions L'Échappée. Et à cette occasion on a rassemblé toutes les personnes proches de la maison d'édition qui avaient écrit des livres ou qui allaient écrire des livres pour vraiment faire une très belle publication annuelle. Et donc la revue s'organise autour de différents cahiers. Il y a des rubriques parfois assez décalées. Il y a des grands entretiens de 16 pages qui retracent la vie d'un acteur ou d'une actrice de l'histoire du XXe siècle. Le premier numéro, on a eu la chance d'avoir Annie Lebrun. Et le second, que vous découvrirez peut-être, c'est Noël Godin, l'entarteur, le coupier, qui a accepté de répondre à nos questions et de revenir sur sa vie. Et donc, Anne, c'est l'une des stars de la revue, puisque non seulement elle a écrit beaucoup de livres aux éditions L'Échappée, vous connaissez peut-être Les En Dehors, Révolutionnaire et Dandy, sur Almereda. Tu as écrit aussi Le Temps des Révoltes, l'émeute, le goût de l'émeute, Belleville Café. Et tu étais venu à Terra Nova l'année dernière pour la réédition du livre sur la RAF. Et donc, tu peux peut-être parler de la rubrique.
Donc la rubrique Femmes de combat, c'est d'exhumer un peu des figures qui ne sont pas forcément complètement oubliées ou méconnues, mais quand même qui ne sont, auxquelles on n'a pas vraiment rendu justice. Je pense à Madeleine Pelletier. Anna Maé, la première femme, c'est une femme qui, elle, est totalement méconnue. Bon, elle a maintenant une rubrique dans le dictionnaire Métron que j'ai rédigée, etc. Mais en fait, elle était passée par perte et profit. Alors, elle n'a pas fait d'énormes grandes choses dans sa vie, mais elle a vécu en anarchie, sans cesser déterminée par aucune considération de quelque sorte que ce soit. Et pour moi, c'est déjà ça, faire l'histoire et être militante au sens le plus élevé du terme. Beaucoup plus que d'avoir écrit 1001 livres et d'avoir eu les honneurs de la presse. Donc, je l'avais choisi pour le premier portrait. Là, j'ai choisi Madeleine Pelletier, qui est très différente, parce qu'elle a eu quand même une certaine reconnaissance de son vivant, bien qu'elle se soit heurtée partout à de terribles barrières, partout parce qu'elle a été dans le domaine de la médecine, puisqu'elle a été la première femme psychiatre. Elle a dû se battre pour passer le concours de l'internat, des asiles qui étaient interdits aux femmes alors qu'elle pouvait passer depuis 1885 l'internat, en médecine tout court, mais qui était plus facile. Mais l'internat des asiles dépendait de la préfecture de police parce qu'un psychiatre avait le droit de priver de liberté une personne, homme ou femme, s'il estimait qu'elle représentait un danger. Et l'idée qu'une femme puisse priver éventuellement de liberté un homme déclaré dément, c'était quelque chose d'inconcevable. Enfin, elle s'est heurtée partout, dans la franc-maçonnerie, le Parti socialiste, chez les anarchistes, à mille et une barrières.
Je peux peut-être revenir sur sa jeunesse.
Oui, je vais
revenir. Elle est née en 1874.
Voilà. Et je voulais dire que voilà, les prochains numéros, puisque j'espère qu'il y aura de nombreux, enfin que chaque année il y aura un numéro, j'essaierai de choisir toujours soit des personnes totalement inconnues, mais qui pour moi sont importantes. Chacun d'entre nous, on fait l'histoire, hein, de toute façon, même par des actes infimes, soit des gens qui ont une notoriété, qui ont sombré dans l'oubli. Voilà. Donc Madeleine Pelletier, oui, je parle un peu de sa vie, si vous voulez, je vous raconte une belle histoire. Alors elle est née en 1874, on fait le calcul, 3 ans après la chute du Second Empire et la terrible répression de la Commune de Paris. De parents très modestes, son père et sa mère étaient montés à Paris, le père était cocher, la mère était domestique. Et à force d'économie, ils ont monté un petit commerce de fruits et légumes, près des Halles, en fait. Et elle a grandi dans cette boutique, dans l'arrière-boutique de cette maison. Il y a eu pas mal d'enfants, mais la plupart sont morts, ou soit la mère a fait des fausses couches, soit ils sont morts en bas âge. De fait, elle est restée quasiment fille unique, parce qu'il y avait un autre survivant, un frère, mais plus âgé. Et sa mère était très bigote, étriquée, mais elle l'a décrit comme une femme intelligente. Et le père était paralysé. Donc elle a vécu dans un... Enfin, il a eu une attaque d'hémiplégie qui l'a laissée quasi paralysée, oui. Du coup, il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus non plus être le mâle dominant, bien sûr. Et je pense que cette configuration particulière l'a éveillée au rapport homme-femme, parce qu'elle a vécu dans un foyer atypique, finalement, avec une mère qui était aux commandes, évidemment, puisqu'elle devait décider de tout. Enfin, cet enfant, la petite Madeleine, a quitté l'école très tôt, comme tous les enfants de milieu modeste, à 12 ans. Sa mère l'avait mis dans une école de religieuses, de bonnes sœurs, parce qu'elle avait un souci comme ça de respectabilité. Elle fréquentait beaucoup l'église, une petite commerçante, pauvre, mais qui se voulait respectable. Madeleine était très mal dans ce milieu. Alors, entre 12 et Et 15, elle a dû aider à la boutique, vraisemblablement, puisqu'on ne lui connaît pas de métier. Et elle fréquentait la bibliothèque paroissiale. À l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque municipale, mais bon, il y avait des bibliothèques paroissiales. Et là, elle lisait tout ce qui tombait entre les mains. Et un jour, elle est tombée sur la biographie d'une nihiliste russe. Ça l'a beaucoup frappée, parce qu'elle s'est dit, mais une femme peut aussi être héroïque. Quand elle était petite, elle disait à sa mère, je veux être générale quand je serai grande. La mère lui disait, bah, les femmes ne sont pas généraux, tu feras des enfants et puis tu feras le ménage. Voilà. Mais ça ne répondait pas trop à ses aspirations. Mais là, elle a vu une voie d'affranchissement. Elle s'est mise à fréquenter un cercle anarchiste. Elle avait donc 16 ans. Et elle a très vite ressenti quand même un pouvoir des garçons sur les filles. Et avec d'autres filles, Anna, c'était donc un groupe qui se tenait vers Montmartre. Elle a fondé un groupe de femmes anarchistes non mixtes. Et il y a eu un débat déjà à l'intérieur de ce groupe sur la non-mixité. Et en même temps, elle fréquentait des cercles féministes, un cercle féministe du quartier des Halles. Et là, elle se sentait pas très bien parce que c'était des femmes d'un milieu d'abord plus âgées. Elle avait 16 ans, c'était une gamine mal dégrossie. Elle se trouvait avec des femmes d'une trentaine d'années, d'un milieu plus bourgeois. Alors, ces femmes défendaient le duel. Elles faisaient de l'escrime, elles se battaient en duel. Certaines s'habillaient en garçon, ce qui plaisait beaucoup à Madeleine. Enfin, elle voyait là toute une voie d'affranchissement. Mais alors, les anards lui reprochaient de fréquenter les féministes. Et d'autre part, lui reprochaient d'être prude. Et elle a cette réflexion marrante. Ils avaient une vierge rouge, Louise Michel. Ils n'en voulaient pas d'eux. Voilà. Parce qu'elle elle se refusait aux avances des hommes. Elle était un petit peu prude. Et puis, finalement, elle a laissé tomber et les féministes et les anarchistes. Parce qu'elle s'est dit, je veux m'instruire. Mais elle n'a pas fait comme faisaient les milieux ouvriers avancés à cette époque, c'est-à-dire les universités populaires, les voies de traverse, l'autodidactisme. Elle a voulu faire des études pour de vrai, passer le baccalauréat. Et à force d'un travail acharné, cet enfant qui avait quitté l'école à 12 ans, en 5 ans, a réussi à avoir le baccalauréat, alors qu'il fallait pour ça apprendre le latin, le grec ancien qu'elle a appris toute seule, s'initier aux mathématiques et à la philosophie. Elle travaillait 10 heures par jour, tous les jours, tous les jours. Il y a eu une tolérance de la mère. Le père est mort à peu près quand elle a commencé à vouloir faire des études. Sa mère approuvait pas trop, mais quand même, on peut reconnaître cette femme de l'avoir laissée tranquille à potasser 10 heures par jour. À 23 ans, elle obtient le baccalauréat et elle s'inscrit en fac de sciences pour devenir médecin. Là, il y avait 2,5% de femmes dans les effectifs, 129 femmes pour 4000 hommes. J'ai fait le calcul, oui, je dis peut-être une petite bêtise, mais ça va être entre 2 et 3% de femmes. Et la plupart étant étrangères, des jeunes filles de l'Empire russe, enfin, donc de Pologne, d'Ukraine, juives pour la plupart. Et il y avait très très peu de franco-françaises. Madeleine Pelletier, alors là, c'est une des seules, quoi. Et elle voulait devenir psychiatre, la psychiatrie l'intéressait. Bon, elle veut se présenter au concours et là, on lui refuse. Donc, elle a fait un recours, elle est venue, on a refusé son inscription à l'examen. Au concours, elle s'est présentée le jour des épreuves avec des journalistes de la Fronde, justement, Marguerite Durand, et les membres du jury disaient, mais oui, il n'y a pas de raison qu'elle ne compose pas. Il y avait 7 membres du jury qui étaient pour le fait qu'elle compose, en disant, c'est complètement idiot, puisque toutes les sections d'internat sont ouvertes, sauf celle-ci, bref. Et il y a eu un recours, et l'année d'après, elle a pu le passer, elle l'a obtenu, mais après... Elle s'est heurtée à deux... Alors, sa vie n'a pas été rose. Elle a été interne, du coup, parce que les médecins, sous la direction desquels elle était, étaient assez... elle l'appréciait, ne la brimait pas, mais elle subissait des brimades, des infirmières, des internes, hommes, etc. Bref. Après, on lui a refusé de passer le concours pour être médecin adjoint des hôpitaux psychiatriques. Et elle a fini par devenir médecin des postes. C'était la seule chose qu'on proposait aux femmes, parce que c'est le moment où on a engagé beaucoup de jeunes femmes pour travailler à la poste, et on trouvait plus décent qu'une femme les examine. Donc, médecin des postes, ça ne l'intéressait pas du tout. Et elle a ouvert un petit cabinet. Mais entre-temps, alors, elle avait adhéré à la franc-maçonnerie, parce que tous les grands psychiatres de l'époque étaient francs-maçons, et elle a été attirée par ce milieu. Mais dans la franc-maçonnerie, beaucoup de loges n'étaient pas mixtes, donc elle était dans une loge dissidente affiliée à la grande loge écossaise. Et elle s'est battue pour que le Grand Orient, les loges les plus prestigieuses, soient ouvertes aux femmes. Elle écrivait dans la presse franc-maçonne. Elle a écrit énormément d'articles de psychiatrie, bon, qui maintenant sont un peu datés, mais moi j'en ai eu quelques-uns entre les mains. Ils sont quand même assez intéressants, parce que ça reposait sur les entretiens qu'elle avait avec les patients, et elle a fait une thèse sur les associations d'idées dans je ne sais plus quelle maladie, on disait pas schizophrénie à l'époque, c'était un nom plus archaïque, mais elle a travaillé sur les associations d'idées, et c'était quand même assez intéressant. Elle connaissait pas la psychanalyse, mais elle a des intuitions de cet ordre-là. Bref, elle a aussi beaucoup écrit dans la presse franc-maçonne, mais finalement, plus elle s'est battue pour l'admission des femmes, plus les francs-maçons se sont braqués contre la mixité. Donc, elle s'est sentie en échec, là encore. Et à un moment, elle s'est dit, pour que les droits des femmes progressent, il faut intégrer les grands partis, pas militer dans des... Alors, elle faisait partie, par ailleurs, d'une organisation féministe qui avait un journal, et elle se battait pour le droit de vote des femmes, mais elle a voulu militer au Parti socialiste, qui s'est formé en 1905 à partir de plusieurs tendances. Elle est au début dans la tendance de Jules Guesde, marxiste, mais Jules Guesde était un affreux réactionnaire en ce qui concerne le droit des femmes. Il était même contre le travail des femmes, en disant que ça permettait au patronat de payer plus mal les hommes, etc. Et donc, elle ne s'est pas sentie très bien. Elle a rejoint la tendance de Gustave Hervé, de la guerre sociale, bon, qui était certainement une des tendances les plus intéressantes. Mais là, elle était aussi... Bon, d'abord, ils n'étaient pas dépourvus de misogynie, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf mon cher Almereda. Mais elle s'est trouvée en porte-à-faux parce qu'elle était pour le suffrage féminin, et eux, ils remettaient en cause la démocratie représentative. Ils militaient pour l'abstention, la fin du vote. Donc, ça n'allait pas. Et à un moment, elle a même revendiqué le service militaire pour les femmes. Donc là, alors là, ça fait carrément un clash, parce qu'eux étaient des antimilitaristes forcenés. Donc ça n'allait pas. Mais elle avait sa logique, quoi. Puisque le service militaire existait, bah, les femmes devaient aussi porter les armes. Et du coup, de plus en plus, elle a écrit dans la presse anarchiste, qui était plus ouverte à certaines idées. Et surtout, elle pouvait, dans la presse anarchiste, s'exprimer par rapport à la limitation des naissances, l'avortement, etc. Mais tout n'était pas rose non plus dans ses rapports. Et pendant la guerre de 14, elle a écrit un journal qui est très intéressant, qui n'a jamais été publié, mais qu'on peut lire notamment à la bibliothèque Marguerite Durand. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'elle voit la guerre. La seule chose qui l'intéresse, c'est finalement les femmes. Qu'est-ce que ça apporte de bon pour les femmes ? Alors, elle demande à être médecin militaire, mais on lui refuse. Elle doit juste être à la Croix-Rouge, comme les bourgeoises qui se mettaient une croix, qui jouaient les infirmières, alors qu'elle a des vraies compétences médicales. Du coup, elle parcourt le front. Elle avait un côté très aventurier, comme aventurière. Elle parcourt le front à pied, à bicyclette. Et devant tous ces cadavres, au lieu d'être émue, etc., elle dit, s'ils avaient fait la révolution, ils n'auraient pas eu la guerre. Tant pis pour eux. Mais par ailleurs, elle voit une opportunité pour les femmes d'accéder à toutes les positions sociales, manuelles, hein, aussi à tous les métiers qui leur sont fermés, comme conduire des tramways, etc. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Alors, c'est pas que les femmes n'ont pas du tout commencé à travailler en 14. Ça, c'est une idée idiote. Il y avait 37% des ouvriers étaient des ouvrières dans les décennies qui précèdent la Grande Guerre. Donc les femmes ont toujours travaillé massivement. Il y avait peut-être moins de 5% des femmes, les bourgeoises, qui ne travaillaient pas, mais toutes les autres, les paysannes, travaillaient. Et il y avait énormément d'ouvrières, et de plus en plus d'ailleurs. Mais certains métiers étaient vus comme masculins. Et là, elle dit, c'est bien la preuve que c'est construit, cette histoire, puisque là, toutes les femmes sont dans ces métiers et ça pose aucun problème. Elles font très bien leur travail. Donc, elle voit dans la guerre au moins cet aspect. Après arrive la révolution russe. Alors, elle fait partie d'un journal qui s'appelle La Voix des femmes, qui est proche de la tendance communiste, puisque, vous savez, au congrès de Tours en 1921, la SFIO éclate entre ceux qui veulent adhérer à la Nouvelle Internationale et ceux qui veulent conserver ce que Jaurès appelait la vieille maison. Et elle choisit l'adhésion à l'Internationale communiste, donc la SFIC qui devient le PC. Et il y a un journal qui est créé, La Voix des femmes, elle en fait partie. Elle aurait voulu être représentante pour le congrès, c'est le deuxième ou troisième congrès du Parti communiste d'Union soviétique, mais c'est pas elle qui est choisie. Elle se démonte pas, elle part, elle traverse toute l'Europe, et à l'époque, on pouvait pas aller en Allemagne sans passeport, et c'est très compliqué, et on pouvait pas du tout accéder à la Russie, qui était en guerre civile d'ailleurs. Mais alors, elle a un périple, elle le raconte dans un journal encore, journal de Russie, qui a été publié, mais jamais, qui a été publié une fois, pas deux, donc dans les années 30. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des passeurs, elle a affaire à pas mal de passeurs, elle se fait avoir, elle se fait voler. Finalement, elle finit par arriver en Lettonie, en Lituanie, de là en Lettonie, pour aller en Estonie, elle rampe dans des fondrières, elle arrive quand le congrès est terminé. Et puis, alors, en plus, elle n'est pas jeune, là. Elle a, vous calculez, 74, 26 plus 21. Elle a 47 ans. Elle est assez rondelette. Enfin, elle est même un peu grosse. Pas en excellente santé, mais elle fait tout ça. Et là, ce qui est intéressant, dans son journal de Russie, bon, elle voit la terreur s'installer. Elle voit bien qu'on arrête déjà. Hein. On n'a pas attendu Staline pour mettre en prison et déporter en Sibérie des anarchistes, six révolutionnaires. Bon, elle se dit, c'est comme la terreur en France, ça va peut-être se calmer. Bon, elle est un peu partagée. Par contre, j'ai lu pas mal de journaux de personnalités qui avaient été en Russie, notamment plusieurs libertaires à cette époque, et ils ne parlent pas des femmes. Et elle, c'est intéressant, c'est que son œil se porte là-dessus. Et elle observe notamment la manière dont, à Moscou, les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent se promener dans la rue sans être importunées. Alors que, dit-elle, en France, toute femme dans la rue est en pays ennemi. Je pense qu'il y avait un harcèlement extraordinaire parce qu'elle en parle beaucoup. Et donc, elle est sensible à ça. Elle voit des jeunes filles se baigner nues dans le fleuve avec des garçons, sans aucun aspect libidineux. Elle décrit toutes ces scènes et c'est très très intéressant parce que personne n'a jamais parlé de ça en vérité. Voilà. Bon, finalement, elle revient en France. Elle fait des conférences sur son expérience, mais très vite, ça va clasher avec le Parti communiste qui est très autoritaire, qui interdit par exemple aux militants de continuer à militer dans la Ligue des droits de l'homme. Et c'est là que Séverine et bien d'autres vont se séparer. Elle est franc-maçonne. Bon, elle fait plus grand-chose dans la franc-maçonnerie, mais enfin, elle est restée franc-maçonne. On lui demande de quitter la franc-maçonnerie parce que c'est une organisation de collaboration de classe. Donc, elle envoie paître en 26, elle quitte le PC. Elle quitte le PC avec perte et fracas et elle rejoindra plus tard un parti dissident. Mais du coup, elle est encore plus dans les cercles, comme elle a besoin d'écrire tout le temps. C'est quand même une vraie militante. Elle écrit plus dans la presse anarchiste, dans le libertaire notamment, aussi dans les temps nouveaux. Et ne sais plus où je voulais. On a bien avancé.
Elle va écrire pas mal dans la presse libertaire parce que c'est là où elle va trouver un écho pour
le néo-malthusianisme, notamment. Ouais. Voilà. Alors, parce que c'est vrai que des journaux comme La Guerre sociale, qui étaient affiliés à la SIFO, et même l'humanité d'avant-guerre était assez ouverte sur ces questions, mais le nouveau Parti communiste se ferme bientôt un peu à ces questions. Donc là, elle va pouvoir continuer la propagande néo-malthusienne, comme on disait à l'époque. Et elle participe à quelque chose d'intéressant qui s'appelait le Club du Faubourg. Ça avait été fondé par un très jeune journaliste de la guerre sociale, d'origine juive ukrainienne, Léopold Sesler, dit Léopoldès, et qui consistait, ça se passait dans le faubourg Montmartre, à faire intervenir deux personnes d'avis différents, mais dans le respect de leur... Alors, ça ressemble un peu à certains débats qu'on voit aujourd'hui à la télé, mais là, c'était comme ça, comme on est Jacques et moi, sauf que il y avait énormément de monde qui fréquentait ce club. Et par exemple, quand on a accusé Nestor Makhno d'avoir commis des pogroms, c'est Joseph Kessel qui avait repris ces accusations. Il a invité Kessel et Makhno pour qu'ils puissent, par exemple, voyez. Et c'était le principe, ce qui était très intéressant. Et elle adorait ça, et parce que non seulement elle aimait écrire, mais c'est une bonne oratrice, elle aimait aussi parler. Et là, le PC ne voulait pas du tout qu'elle continue. C'est comme ça qu'elle est devenue de plus en plus dissidente. Enfin, la fin de Madeleine Pelletier. Alors, elle a écrit sur l'éducation des filles. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans toute son œuvre. Je ne suis pas apte à juger de toute façon son œuvre médicale, qui évidemment est datée, mais qui a quand même, qui présente certains intérêts. Mais dans toute son œuvre politique, elle a écrit Une utopie, elle a écrit des journaux, édité des correspondances, écrit des romans, plus ou moins autobiographique, mais elle a écrit des sortes de traités, dont un traité sur l'éducation des filles, qui est vraiment très, très bien, où elle dit ce que Beauvoir a dit beaucoup plus tard. Oui, vraiment, elle a rien inventé le jour où elle a dit ça. Ça fait longtemps que beaucoup de gens le disaient, mais peu importe. Beauvoir s'est resté dans l'histoire parce qu'elle avait ce profil intellectuel que n'a pas Madeleine Pelletier, qui jamais, jamais n'a été une bourgeoise. Elle est restée vraiment, même si elle avait ce titre de docteur en médecine, elle est restée vraiment une femme du peuple, hein, en fait. Elle est souvent sévère avec le peuple, mais elle peut se le permettre parce qu'elle vient de là et son cœur bat là. Et donc, elle explique dans ce traité que les rôles sociaux sont conditionnés très tôt, dès le sein, en fait, et que c'est ce qui fait qu'une femme va être une femme et un garçon un garçon, et qu'il faut casser ça en donnant aux uns et aux autres les mêmes jouets, donc arracher la petite fille aux poupées, à la vaisselle, au fourneau, et lui donner plutôt des jeux de construction. Bon, ça, c'est des choses qu'Anna Maé disait déjà, hein, bien sûr. Mais elle pense aussi que les garçons, enfin, que l'éducation reçue par les uns et par les autres doit être la même, c'est-à-dire une petite fille doit apprendre à manier une scie, construire un petit meuble en bois, enfin, et un garçon doit apprendre à coudre. Alors la couture, c'est l'horreur absolue pour elle. Mais il faut que hommes et femmes, chacun soit capable de faire un nœud en l'air, recoudre un bouton, etc. Quoi, être autonome à ce niveau-là. Parce qu'en Russie, où il y a une anecdote marrante, les visiteurs étrangers devaient donner une journée de travail gratuite pour le peuple russe, la révolution. Et elle, on lui propose immédiatement de faire de la couture avec d'autres femmes. Elle dit « Quoi ? Mais je ne suis pas venue en Russie pour repriser des chaussettes. » Et elle part avec une équipe d'hommes qui installe des traverses de chemin de fer. Et toute la journée, elle soulève d'énormes poutres en métal, etc. Donc vraiment, la couture, c'était sa bête noire. Mais néanmoins, elle pense que les garçons doivent apprendre, pour que justement les femmes ne fassent pas toute cette sale besogne, doivent apprendre à coudre, à cuisiner. Chacun doit apprendre les moyens de son autonomie. Et pour ce qui est de la liberté, elle dit il n'y a aucune raison de donner moins de liberté à une petite fille qu'à un petit garçon. Il suffit de la munir d'un pistolet et il n'y aura pas de problème. Elle pourra se défendre. Donc, lui apprendre à se repérer avec des cartes, voilà, on lui donne des cartes, une bicyclette et qu'elle aille dans la forêt avec son pistolet. Personne ne pourra lui faire du mal. Bon, pour vous donner une idée de son... Mais c'est vrai que ce qui reste le plus fort, je pense, c'est cette idée que les rôles sociaux sont totalement construits. Et elle l'explique assez bien, bien mieux. Alors, je voudrais vous montrer juste un peu ce, à quoi elle ressemblait, parce qu'elle elle était aussi pour... Il faut savoir que le port du pantalon était interdit pour les femmes à cette époque, alors quelques intellectuels ou artistes le portait, comme Rosa Bonheur, dont on reparle enfin un peu, le peintre Rosa Bonheur. Mais elle s'habillait en homme. À un moment, s'est habillée en homme. Et alors, elle est, vous voyez, bien rondelette. Et dans une lettre à une amie, elle est toute contente d'être accostée par les prostituées. Elle dit, prostituées m'appellent mon gros. J'aurais préféré mon mince, mais enfin, on ne se refait pas. Elle a aussi tout cet humour. Et voilà. Et pour elle, porter un vêtement masculin, bah, c'est déjà échapper au harcèlement de rue, notamment. C'est une preuve d'égalité. Voilà. Alors, elle a fini très tristement parce qu'elle elle aidait des femmes à avorter. Enfin, elle pratiquait des avortements. Pas énormément, mais elle en pratiquait. Et pas dans un but lucratif, d'ailleurs. Vraiment par conviction. Et à un moment... elle avorte, mais on est en 39 au moment où vraiment là ça devient assez terrible la lutte contre l'avortement. Elle avorte une petite fille de 13 ans qui a été violée par son frère et ça passe en procès. Et alors elle est déclarée coupable, mais acquittée pour non-discernement parce que. Peuvent pas trop la mettre en prison à l'âge qu'elle a, 39, elle a 63 ans, ouais. Et du coup, elle est déclarée irresponsable mentalement et elle est internée. C'est-à-dire cette femme à qui on a refusé d'être médecin en hôpital psychiatrique, finalement se retrouve internée en hôpital psychiatrique où elle est morte un an après de désespoir pratiquement. Et elle écrit dans une lettre. Voilà comment on traite en France les femmes intelligentes. Mon amie Ariali, alors c'est une autre féministe de cette époque, s'est suicidée. Moi, on m'a enfermée. Il n'y a rien de pire pour une femme que de naître intelligente. Voilà. Elle meurt en prononçant ces paroles.
Ouais. Ben, merci, Anne. L'une des autres... femme qui aurait pu être dans cette rubrique femme de combat, qu'il sera peut-être un jour dans 15-20 numéros. Il s'agit de Séverine. Séverine, c'est un pseudonyme de Caroline Rémy qui a été la première femme à vivre du métier de journaliste en France. Et donc, alors, je tiens juste à préciser que à l'origine, il devait y avoir aussi une personne des amis de Séverine qui devait être là ce soir et qui s'excuse, voilà, de ne pouvoir, de n'avoir pas pu venir à Toulouse. Mais donc, comme on a travaillé ensemble sur le projet, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle aurait fait pour présenter. Cette figure vraiment, vraiment flamboyante du milieu libertaire. Donc, Caroline Rémy, elle est née un peu plus tôt que Madeleine Pelletier, puisqu'elle est née en 1855. Et elle vient plutôt d'une famille bourgeoise. Les parents vont vraiment la surprotéger. Elle a écrit un roman autobiographique sur sa jeunesse qui s'appelle Lynn. où elle revient vraiment sur, voilà, sur toute son enfance, sur toute son adolescence. Et donc, y a plusieurs anecdotes assez fortes, puisque vraiment très, très vite, elle va vouloir aider son prochain. Il y a un petit gars qui plume un oisillon dans le jardin. Bon, elle va tout de suite aller lui taper dessus. Il y a une petite gamine qui se faisait insulter, qui se faisait rouer de coups par d'autres gamins à cause de sa couleur de peau. Et donc, elle va prendre sa défense. Donc, très vite, elle va avoir un peu là, ce sens de la justice un peu chevillé au corps. Et à tel point que sa grand-mère lui dira que ma pauvre fille, tu ne sais même pas te moucher sans passion, ce que tu vas être malheureuse toute ta vie, quoi. Et donc, Caroline Rémy, elle va rencontrer un jeune étudiant d'une bonne famille aussi, Adrien Guébard, et ils vont vouloir se mettre ensemble, sauf que elle a été mariée de force 5 ans auparavant avec un type qui avait 13 ans de plus qu'elle, à l'âge de 17 ans. Et ça va très très mal se passer puisqu'il va être violent, il va pas du tout la considérer comme son égal, ce qu'elle imaginait elle vraiment dans les lectures qu'elle faisait dans son adolescence. À l'époque c'était pas possible de divorcer, ou enfin du moins c'était très difficile, et donc elle va s'enfuir. Et ses parents vont la soutenir dans ce projet. Et donc, elle va pouvoir retrouver Adrien Guébard. Ils vont voyager un petit peu partout en France, et notamment pousser jusqu'à Bruxelles, où elle va rencontrer quelqu'un qui va être très important dans son parcours, puisqu'il s'agit de Jules Vallès. Donc Jules Vallès, voilà l'ancien communard, l'auteur de l'insurgé, de l'enfant. Jules Vallès qui était en exil à Bruxelles. Séverine va se lier d'amitié dans un premier temps avec lui. Et très vite, les deux vont travailler ensemble. Jules Vallès va la prendre sous son aile et va lui apprendre un petit peu tous les rouages du métier de journaliste, de l'écriture. Elle va beaucoup l'aider dans l'écriture de l'un de ses romans. Et voilà, très vite, il y a un rapprochement qui s'opère, humain, politique, professionnel. Et Séverine, elle sent qu'elle a trouvé un petit peu sa vocation. Elle annonce à sa famille qu'elle va devenir journaliste aux côtés de Jules Vallès. Mais là, c'est un petit peu le tonnerre des fracas dans la famille Rémy, puisque les parents ne sont pas du tout d'accord. Enfin, journaliste, c'était vraiment très mal vu dans leur famille. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, elle va s'asseoir à son bureau, elle va écrire un petit billet adressé à Vallès. Je meurs de ce qui vous fait vivre de révolte. Je meurs de n'avoir été qu'une femme, alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente. Je meurs d'avoir été une réfractaire. Et elle va se tirer un coup de pistolet en plein cœur. Sauf que, c'était pas en plein cœur, évidemment. Et la balle passe vraiment juste à côté. Ça perd fort tout son corps. La famille a eu très très peur de cet acte, et va finalement accepter qu'elle travaille aux côtés de Vallès. Et donc, là, commence une superbe aventure éditoriale, puisque avec Vallès, ils vont relancer Le Cri du Peuple, qui était un journal qui avait paru pendant la Commune. Là, ils vont reprendre le même titre, avec aussi la fortune d'Adrien Guébar, qui venait vraiment d'une famille très riche. Ils vont relancer Le Cri du Peuple, et Vallès, il a encore une aura assez incroyable, donc ils arrivent à s'entourer vraiment de toutes les figures du socialisme. Et ce que Vallès voulait réaliser, c'était vraiment rassembler toutes les chapelles différentes du mouvement socialiste de l'époque, ce qu'ils vont réussir, puisque le premier numéro paraît le 28 octobre 1883. Et très vite, au bout d'un mois, Séverine va écrire un article. Elle va signer Séverin dans un premier temps, parce que voilà, les femmes sont quasiment absentes, et elles ne voulaient pas faire trop de remous. Mais bon, ça va durer très peu de temps, puisque au bout du troisième article, voilà, elle met ce E à Séverin, et Séverine, ça sera vraiment son le nom qu'on connaîtra par la suite. Et donc, le journal, le journal paraît, sauf que Vallès, qui était très jeune, hein, qui avait moins de 55 ans, qui avait 53-54 ans, qui a passé des années en exil, qui a pas du tout ménagé son énergie toute sa vie durant. Vallès va mourir le 14 février 1885. Et ça va être une perte assez énorme pour Séverine. Enfin, elle reviendra de nombreuses fois sur l'importance qu'a eu Vallès, un ami, un père, un frère. Vraiment, c'est très beau, c'est très touchant, quoi, la manière dont elle parle de lui. Mais ce qui va se passer, surtout, la chose vraiment importante, c'est que c'est Séverine qui va devenir la rédactrice en chef du Cri du Peuple. Et donc, ça va être vraiment la première à avoir ce statut pour un quotidien national. Et petit à petit, elle va avoir tout un tas de barrières liées au machisme, mais elle va quand même se faire respecter par ses confrères, et elle va faire des reportages vraiment de terrain. Ça va être l'une des premières à aller sur le terrain pour faire des entretiens. Par exemple, il y a l'Opéra Comique de Paris qui a subi un terrible incendie, il y a eu beaucoup de morts, et donc elle va se dire mais il y a une raison à tout ça, pourquoi il y a eu autant de victimes. Et donc le lendemain des faits, elle va se rendre à l'Opéra Comique, elle va poser des questions à toutes les personnes qui y travaillent, et puis elle va rendre compte de la terrible responsabilité de la direction du théâtre, qui, pour faire des économies d'énergie à l'époque, avait fermé des issues de secours, ce qui avait été vraiment terrible ce jour-là. Et donc elle va faire des reportages. Il va y avoir une catastrophe du côté de Saint-Étienne, dans une mine, un terrible coup de grisou en 1887. Elle va à Saint-Étienne et elle va un peu alerter sur le quotidien des mineurs, des familles de mineurs, vraiment tout ce qui vivent. Et vraiment, ces articles vont être de plus en plus lus. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au Cri du Peuple, on conteste son autorité, on conteste ses compétences, et on la conteste aussi sur un plan politique. Et donc, elle va être lassée voilà, des querelles intestines entre voilà, les autoritaires, les anti-autoritaires. Et après de nombreux bâtons dans les roues, elle va décider de partir. Elle va écrire un dernier test dans Le Cri du Peuple qui est très beau, qui s'appelle Adieu, pardon. Et du coup, je vais lui lire juste un petit passage pour un peu voilà, vous rendre compte un peu de l'état d'esprit dans lequel elle se trouve vraiment avant d'embrasser la carrière de journaliste fabuleuse qu'elle a eue et de journaliste indépendante. Et maintenant, adieu, chère maison qui fut mienne. J'avais rêvé d'en faire le bon gîte du socialisme, de voir trinquer à la même table Gued et Broust, Vaillant et Kropotkine. Au lieu de cela, je n'ai eu que des hôtes de passage, qui, sitôt la dernière bouchée avalée, le dernier verre de vin bu, partaient en montrant le poing et en maugréant une injure, quelques-uns brisant de loin les vitres à coups de cailloux. J'en ai eu tant de ces mauvais payeurs qu'à l'heure présente, c'est moi qui m'en vais. En dépit des efforts de ceux qui, depuis 4 mois, m'ont été des alliés fidèles et ont mis leur jeunesse, leur dévouement et leur abnégation au service d'une cause perdue. Qu'importe, la maison est toujours solide. Il n'y manquait que de l'avance et des provisions. Ceux qui viennent ont tout cela. Et par-dessus le marché, la poigne robuste qui mettra les méchants gars à la raison. Bonne chance, mes successeurs. Un dernier regard en arrière, une dernière étreinte aux fidèles et adieu. Mais mon bagage est plié dans un mouchoir rouge. Quand je voudrais que l'on sache où je suis, je casserai une branche sur la route et je le mettrai au bout. Les amis me suivront des yeux. Et donc, ce qu'elle écrivait aussi un peu plus haut, c'est qu'elle fera l'école buissonnière de la Révolution. Et par là, elle entend offrir ses services, ses compétences de reporter à n'importe quel journal qui voudra bien travailler avec elle. Et à l'époque, eh bien, tout le monde, Séverine a vraiment, fin des années 80, début des années 90, elle a une ratelle que vraiment, il y a beaucoup de journaux qui veulent l'engager, et des journaux vraiment de toute obédience. Et elle va faire des choix vraiment très stratégiques pour écrire dans ces différents journaux. Elle va par exemple écrire dans Le Gaulois, qui était à l'époque un journal monarchiste, mais elle va écrire dans Le Gaulois parce qu'elle venait de lancer une énorme souscription. Elle va tenir d'ailleurs un carnet dans les colonnes du Gaulois pour dire combien d'argent elle a reçu et de qui, et à qui sera-t-il destiné. Elle se dit, mais Le Gaulois, les monarchistes, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Donc, je vais écrire des articles. Je vais vraiment leur parler du quotidien des travailleurs, des ouvriers et surtout des femmes. Parce que très vite, ce qui va être très important dans les articles de Séverine, c'est la place de la femme. Et donc, elle va pas rejoindre tout de suite les cercles féministes, puisque... à l'époque, c'était beaucoup sur le droit de vote que ce cercle-là se battait. Et Séverine, elle a un côté très, très libertaire à cette époque-là, là, à la fin du 19e. Elle va dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se batte pour le droit de vote ? Être député, c'est être la pire crapule du monde. Donc pourquoi est-ce qu'une femme se battrait pour être députée ? Et donc, elle a tout ce discours très, très libertaire. Mais à côté de ça, elle va écrire sur les grévistes. Alors il y a un reportage qui est assez incroyable où elle va suivre toute une grève chez les casseuses de sucre. C'était des ouvrières là qui travaillaient dans des conditions mais effroyables, Ouais, dans les raffineries, mais voilà, qui perdaient leur dent très 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 jeune, qui les mains étaient ils avaient plus d'ongles, enfin c'était vraiment et donc il y a une grève qui éclate parce que l'un des patrons avait voulu diminuer la paye journalière. Et donc Séverine, le lendemain, elle se rend à la raffinerie pour se faire embaucher en tant que couvrière là, journalière, et elle va rendre compte de ce que vivent au quotidien les grévistes. Elle va faire, ça va être l'une des premières. Alors ça, c'est un article. Alors c'est peut-être l'article dont vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup circulé là, ces derniers temps, qui a été dans la revue Retro News de la BnF, qui avait fait un dossier sur les femmes journalistes là en septembre, et même sur Internet, il a énormément tourné quand le Congrès américain est revenu sur l'avortement, et son texte, ça s'appelle Le droit à l'avortement. Et donc, là, tout début des années 90, mais bon, 1890, elle va écrire un texte qui s'appelle « Le droit à l'avortement », et dans lequel elle va vraiment défendre ce droit-là. Et c'est un texte vraiment très hallucinant, quoi, ouais, d'une puissance. Enfin, c'est pas étonnant que ça soit vraiment là, son plus connu. Mais voilà, elle va vraiment ce qui est aussi très important, c'est qu'elle va dans tous les journaux qu'elle va collaborer dans ces quotidiens là c'est son nom qui arrive en première page. C'est-à-dire que c'est vraiment elle est toujours le premier article du journal en question, c'est un article de Séverine, parce qu'elle a beaucoup de lecteurs, elle a beaucoup de lectrices qui la suivent. Et donc, elle va même participer à l'aventure que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Fronde, qui est Marguerite Durand, qu'elle appelait le Petit Masque, puisqu'elle était une ancienne comédienne, qui va, avec toute une bande de femmes, elle va vraiment tenir à ce que ce ne soit que des femmes qui travaillent en tant que journalistes, qui travaillent en tant que comptables, qui travaillent en tant qu'en typographe. Et donc, le plus important, l'une des choses importantes, avec des payes d'hommes de l'époque. Et donc, elle participe à la Fronde avec Marguerite Durand dans ce journal. L'une des choses vraiment importantes qui va se passer, c'est qu'elle va rendre compte de l'affaire Dreyfus. Ça va être l'une des premières à rejoindre Zola, à rejoindre toute l'équipe de l'Aurore. Madeleine Pelletier également été Dreyfusarde.
Elle était encore très jeune, Madeleine Pelletier.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque.
Au début de l'affaire, elle est encore jeune. Oui, elle est Dreyfusarde.
Mais Séverine, elle va participer à tous les procès. Il y a même un recueil de son vivant qui va apparaître, qui compile tous ses articles sur l'affaire Dreyfus. Et tout ça va apparaître dans la fronde, où sa rubrique note d'une frondeuse l'une des rubriques principales. Elle va cofonder la Ligue des droits de l'homme.
L'occasion de l'affaire Dreyfus.
C'est ça. Et la Ligue des droits de l'homme, qui elle restera fidèle toute sa vie, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, le Parti communiste lui avait sommé de quitter la Ligue des droits de l'homme, et chose qu'elle a entièrement refusée. Il y a plein de avec Marguerite Durand, elle va faire elle va évoluer sur la question féministe, puisque en côtoyant toutes ces journalistes et toutes ces figures, elle va petit à petit abandonner ce côté libertaire et elles vont participer toutes les deux à la grande manifestation qui est juste c'était le 5 juillet 1914. Elles vont se retrouver à 6000 femmes pour aller déposer des gerbes de fleurs devant la statue de Condorcet qui avait milité en son temps pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
C'est une liste des révolutionnaires.
Ouais. Et donc, Séverine, ça va vraiment devenir quelqu'un de très important, que ce soit dans le journalisme, dans le monde militant. Il y aurait plein d'histoires à raconter puisqu'elle a croisé, un petit peu tout le monde, que ce soit des figures libertaires ou des figures artistiques. C'était devenu une amie de Sarah Bernhardt. Elle a croisé Émile Zola, avec lequel elle est devenue proche. On l'appelait la Grande Séverine.
Nadar a fait son
portrait. Il y a eu des portraits de Nadar, il y a eu des peintures de il y a eu des peintures de Hodgkins. Il y a un superbe tableau. Alors si vous avez au Petit Palais, ça c'est celui de Renoir. Ouais, et au Carnavalet, en ce moment, à Paris, il y a une exposition qui s'appelle Parisienne citoyenne. Et l'une des pièces maîtresses, un peu là, de l'exposition, c'est un tableau gigantesque d'Amélie Boris-Aurel. Un portrait de Séverine, fabuleux, quoi.
C'est une belle femme.
Ce qui s'est passé, c'est que elle va écrire plus de 6000 articles dans sa vie, de toute sa vie. Elle va écrire énormément pendant la Première Guerre mondiale. Elle va être infirmière, mais suite à celle-ci, elle va arrêter d'écrire et elle va plutôt devenir une oratrice. Une oratrice qui était demandée vraiment dans toutes les manifestations, dans tous les meetings. On a des sources qui le confirment, le fait qu'elle soit devenue une si grande oratrice. Sauf qu'il n'y a plus aucun discours. Ça n'a jamais été. Elle n'a pas gardé les copies, les interventions, et ça, pour le coup, on n'a aucune trace. Et donc elle va continuer d'écrire. Elle va écrire notamment dans la voix des femmes. Donc c'est pour ça qu'on se demandait dans le train tout à l'heure. Ni Anne ni moi n'avons vu Séverine parler de Madeleine Pelletier ou Madeleine Pelletier de Séverine, mais on est quasiment sûr qu'elles se sont connues, qu'elles se sont croisées. L'une des dernières apparitions en public de Séverine, ça sera au Cirque d'hiver à Paris pour un grand meeting, un grand rassemblement qui a eu lieu pour la libération de Sacco et Vanzetti, les anarchistes américains, qui sont finalement fait tuer. Assassinée et elle meurt en 1929 à Pierrefonds dans l'Oise puisqu'elle avait déménagé suite à une maladie assez fulgurante pour se mettre au vert. Elle était tombée amoureuse de ce coin de l'Oise et donc elle y revenait très régulièrement et elle l'avait appelé les trois marches en hommage à l'auberge où tous les Dreyfusards se réunissaient après le procès, ils débriefaient sur la journée, et puis voilà, il y a tout un article où elle raconte justement la bonne ambiance qu'il y avait malgré tout, où tout le monde déclamait de la poésie, discutait à bâton rompu sur l'actualité politique, et elle tenait à ce que sa maison soit la plus hospitalière possible. Et à sa mort, il y a une quantité d'hommages qui apparaît dans la presse de l'époque, tous en essayant de mettre en avant l'une de ses facettes. Et donc, dans ce livre qu'on a publié dans la collection de littérature, la collection Lampe Tempête, c'est plutôt des rééditions. Mais en lisant les articles de Séverine, enfin c'est pas hasard si c'est une plume, si c'est la gravure d'une plume qui orne la couverture, c'est que il y a une telle écriture dans ces articles, il y a un tel style qui dénotait totalement à l'époque, et puis même qui aujourd'hui prend au trip, qu'on a décidé de publier ce recueil journalistique autobiographique, puisque l'idée c'était vraiment elle n'a pas écrit d'autobiographie. Et donc, comme elle a écrit plus de 6000 articles, on s'est dit qu'on allait rassembler une cinquantaine de ces articles pour retracer sa vie et son parcours politique, mais à travers ces textes. Nous, ça nous paraissait vraiment important qu'on ne réédite pas l'une des deux biographies qui existent, mais qui sont totalement épuisées. Il y a vraiment plus rien qui existe sur Séverine. Mais on voulait que ces textes à elle soient mis à l'honneur. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est une mosaïque comme ça qui permet de découvrir un petit peu toutes ces facettes, puisque le jeu du puzzle, vraiment, c'était de faire en sorte que tous les journaux avec qui elle a collaboré y figurent, que tous les types d'articles y figurent également, que ce soit les reportages, les portraits. Elle fait de très beaux portraits de Sarah Bernhardt, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de figures connues ou moins connues de l'anarchisme, Jules Vallès, Louise Michel, Jean Grave, Félix Pia. Et donc, ces portraits sont vraiment très, très beaux. Et il y a ces pamphlets aussi qui sont au vitriol, vraiment très très énergiques. Il y a des désengages comme ça de ses ennemis politiques, qui sont aussi très drôles. Et puis il y a tout un tas de textes qui illustrent un petit peu ces mille et un combats, puisque elle a été l'une des premières à défendre la cause animale. Il y a un texte très drôle où elle parle de son petit chien, elle a été membre d'honneur de la Ligue de protection des animaux. L'idée, c'était vraiment de montrer toutes les facettes de Séverine, et que ça soit vraiment raccord chronologiquement, qu'on voit un petit peu vraiment l'étendue de toute sa carrière. Et on a ajouté un appareil critique au début de chaque chapitre pour recontextualiser l'article en question. Et on a demandé à Paul Couturiot, l'un des deux biographes de Séverine, de réaliser une introduction, mais plutôt biographique sur Séverine. Et en ce qui concerne la postface, le hasard fait que l'été dernier, on s'est rendu compte qu'une association s'était créée qui s'appelle les Amis de Séverine, créé par deux professeurs de lettres qui s'appellent Sophie Mucianez et Laurence Doucou-Solacaz, qui vivent du côté de Pierrefonds, dans l'Oise, et qui sont passionnés pour sa vie et qui ont créé cette association pour la faire redécouvrir. Et donc, dans cette postface, elles reviennent vraiment sur la postérité de Séverine. Et Elsa Fance le fait, outre qu'elle soit une femme et que l'histoire est toujours plus sévère avec les femmes, elles avancent le fait qu'elle n'a, comme elle n'a pas eu d'œuvre littéraire, son œuvre de journaliste n'a jamais été remise en avant, puisque Zola, Hugo étaient des journalistes avant, mais Colette, mais elle a eu une œuvre littéraire qui a fait que on connaît aussi, surtout la romancière.
Elle couvre les procès, notamment.
Elle procède de Bono.
Je voulais juste peut-être dire, en complément de Jacques, elle avait quand même une influence énorme, y compris sur les hommes politiques de cette époque, qui étaient tous des radicaux qui étaient venus au pouvoir après l'affaire Dreyfus. C'était le camp des Dreyfusards qui était au pouvoir, qui n'a pas particulièrement bien traité la classe ouvrière. Mais il y a eu un événement en 1910, il y a un événement qui serait un fait divers, si vous voulez. Il y a un jeune cordonnier qui s'appelait Liabeuf qui a été accusé. Il sortait avec une jeune prostituée. Il avait eu quelques déboires judiciaires pour des peccadilles quand il était jeune, mais on faisait aucun cadeau à la jeunesse ouvrière. Il avait du coup dû partir dans les bataillons d'Afrique qui étaient des vrais bagnes au moment du service militaire et qui faisaient de vous un paria pratiquement à vie quand vous étiez passé par là. À l'âge de 23 ans, il est à Paris, il est cordonnier, il a une relation sentimentale avec une prostituée et il est accusé de proxénétisme, ce qui était une injustice terrible. Alors, il fait pas beaucoup de prison, il fait 2 mois, mais il est interdit de séjour à Paris. Et évidemment, il respecte pas l'interdiction de séjour. Du coup, il tombe sur une patrouille de policiers qui l'arrête, qui le remet en prison. Et là, quand il sort, il est décidé à se venger. Et c'est très fameux son histoire, parce qu'il s'est construit une sorte d'armure avec du cuir et des clous de couturier, une grande cape. Il a pris son tranchet le tranchet pour couper le cuir, ça coupe bien. Il est parti à la rencontre des policiers qui avait commis cette injustice envers lui. Finalement, c'est 2 autres policiers qui vont payer. Et il se bat avec eux, il se prend les mains sur les clous et il en tue un. Et il va être condamné à mort. Et beaucoup de gens ont pris sa défense, mais Séverine va être au premier plan. Elle va écrire un texte extraordinaire où elle s'adresse à tous les Dreyfusards en disant « Vous qui avez signé pour Dreyfus, qui est effectivement victime d'une injustice, vous ne pouvez pas rester indifférent au sort de ce Dreyfus ouvrier qui a été victime d'une... Certes, il a tué un policier, mais il a été victime d'une première injustice. Il a été accusé d'un délit qu'il n'avait pas commis et que, comme homme d'honneur, lui semblait odieux, puisque, justement... Liabeuf avait beaucoup de mépris pour les proxénètes et d'être accusé de proxénétisme, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas endurer. Et en fait, de fait, ils vont obéir à l'appel de Séverine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appel rédigé par des très grandes personnalités dreyfusardes, dont aussi le capitaine Dreyfus lui-même. Donc elle avait une sacrée influence et elle pouvait mettre toute son énergie à défendre la cause d'un petit cordonnier, quoi, autant que d'un militant. C'était même pas un militant, Liabeuf, c'était pas un militant. Mais elle met toute son énergie à le défendre. Et par ailleurs, elle avait quand même de l'entre-gens, puisque elle pouvait avoir des audiences auprès du président de la République. Elle a réussi à faire réduire d'un mois seulement. Mais enfin, c'est toujours ça de gagner la peine de Miguel Almereda quand il est en prison et qu'il était encore un tout petit gars que personne ne connaissait, qui avait 20 ans et qui avait été accusé d'un petit vol et puis ensuite d'un attentat complètement foireux, d'une bombinette qui avait tué personne. Et elle va être sensible. Des amis de ce jeune garçon qui avait 18 ans venir la trouver en disant faites quelque chose pour lui, et elle va finir par avoir une entrevue avec le président de la République et réduire sa peine. Il était condamné à 12 mois, il en fera 11, mais elle avait quand même un certain pouvoir en fin de compte.
C'était Rencontre avec Anne Steiner du comité rédactionnel de la revue Brasero et Jacques Beaujard, éditeur aux éditions L'Échappée.
Radio Livre Dormir.